Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu, chapitre 1. Donc, Matthieu, chapitre 1, et on va lire les versets 18 à 25. Je vais demander au frère Laurent s'il veut bien lire les versets Matthieu 1, 18 à 25.
Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Verset 25. Mais il la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus.
Merci. Donc le passage qu'on a devant nous, en fait, est d'une grande richesse sur le plan théologique, parce qu'il nous révèle des choses très profondes. Le thème central de ce passage, c'est donc l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité, et comment donc cette incarnation s'est produite par la conception par le Saint-Esprit en Marie, sans que Marie n'ait eu de rapport avec un homme. Donc c'est ce qu'on appelle la naissance virginale. Donc on va essayer un petit peu de regarder ce soir, de creuser un peu ce thème en nous appuyant sur ce texte. Donc Jésus a été élevé dans une famille humaine, normale, et c'est d'ailleurs en quelque sorte le reproche que faisaient les Juifs de son village. Comment un simple homme comme lui, en apparence tout à fait banal, pouvait-il avoir les prétentions qui étaient les siennes pendant son ministère? Et en Matthieu 13, 55, les gens de son village lui disent: n'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? En d'autres termes, donc, les gens du petit village de Jésus, qu'ils connaissaient très bien, n'avaient aucune idée de qui il était. Et pour eux, c'était un homme comme un autre, élevé dans une famille nombreuse, comme il devait en avoir beaucoup en Israël à cette époque-là. Et cela montre combien, en fait, Jésus était vraiment humain, parce que, en apparence extérieure, rien ne le distinguait des autres hommes, bien qu'il fût Dieu. Mais Joseph et Marie, eux, connaissaient la vérité. Et c'est une vérité qu'ils ont gardée pour eux, parce que qui les aurait cru s'ils avaient dit ce qu'ils savaient sur la naissance de Jésus et sur sa véritable origine? Et leur attitude, leur courage, leur soumission devant la volonté divine, leur discrétion et la façon dont ils ont géré toute cette affaire, tout au long de leur vie, cette immense responsabilité qui était la leur, toutes ces choses forcent évidemment notre admiration. Voilà donc un couple modeste. Joseph est un ouvrier ou un artisan. Marie est sans doute une toute jeune fille, peut-être encore adolescente, parce qu'en ce temps-là, les jeunes femmes se mariaient très jeunes. Suivant les coutumes juives de l'époque, probablement que le mariage avait été arrangé. Mais si je puis dire, Marie est bien tombée dans cet arrangement, même si elle n'a pas choisi Joseph. En tout cas, on peut le penser. Joseph, c'est vraiment un homme bien, un homme très bien. Et la parole, le texte utilise le mot de juste, en fait. C'est un homme de bien, le texte, c'est le mot juste. Et donc Joseph, il est juste parce qu'il est justifié par la foi, comme ses ancêtres Abraham et David. Et cela est visible dans son attitude, dans sa vie, par des fruits de justice. Donc, quelle fut sa réaction quand il a appris On ne sait pas exactement comment d'ailleurs, mais quand il a appris de Marie qu'elle était enceinte. Et sans doute une profonde déception d'avoir été bafoué par cette femme, qu'il aimait peut-être déjà, mais manifestement aussi une inquiétude pour elle. Car sa vie était en danger. En effet, la loi juive était très sévère envers des jeunes femmes fiancées qui avaient des relations avec un autre homme. Et en Deutéronome 22, on lit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée, donc au verset 23 de Deutéronome 22, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Il faut savoir que dans la tradition juive, en fait, il y avait des fiançailles où déjà les deux sont appelés mari et femme, mais ils ne vivaient pas ensemble. Mais ils étaient déjà appelés mari et femme. Donc Joseph doit être profondément troublé par cette situation et il se dit qu'une solution ce serait de rompre en secret avec elle, loin de l'idée pour lui de la diffamer en public, parce qu'il sait que cette diffamation amènerait sa mort. Et en proie à ces questions angoissantes, il va se coucher, sans doute, il va dormir, et puis pendant son sommeil, un ange du Seigneur lui apparaît et lui dit ceci, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, donc c'est déjà sa femme, parce que dans, comme je disais, dans la religion juive, elle était mariée avec lui, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc la réaction de Joseph est remarquable, hein, au verset 24, on lit que Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, prit sa femme avec lui. Et beaucoup d'autres ont discuté, en fait, beaucoup d'autres personnes ont discuté lorsque Dieu ou lorsque des anges leur sont apparus. On pense à Moïse, on pense à Gédéon, ont tous fait des grandes discussions, et même plus proche, Zacharie pose des questions. Et d'ailleurs, ses doutes lui valent d'être muet pendant, jusqu'à la naissance de son fils. Mais Joseph, lui, ne discute pas. C'est un homme de foi. Sans doute aussi est-il soulagé de cette issue finalement magnifique qui va préserver l'honneur et la vie de sa fiancée et ainsi que son jeune ménage. Et peut-être a-t-il ensuite dû précipiter le mariage pour que Marie n'apparaisse pas enceinte avant qu'ils ne soient réellement mariés au sens où ils vivent réellement ensemble. Et en tout cas, aux yeux du monde, ça permettra d'assumer, il va assumer cette paternité. C'est ainsi que les gens du village ne se douteront de rien et c'est ce qu'on voit en Matthieu 13, 55 que j'ai lu tout à l'heure. Joseph a donc cru à cette conception virginale, il n'a pas douté, à cette conception virginale par le Saint-Esprit, nous devons y croire aussi, parce que le passage appuie avec une grande insistance sur ce fait, et on peut regarder plusieurs choses. Si vous regardez au verset 15, qu'on n'a pas lu, mais déjà au verset 15, dans la généalogie, en fait, dans la généalogie de Jésus par Joseph, là, donc on a une généalogie de Jésus par Joseph, qui est son père légal, on voit un changement au verset 15, donc il est dit, verset 15, Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc la succession d'engendrement s'interrompt brutalement quand on arrive à Jésus. Il n'est pas dit Joseph engendra Jésus, mais Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc il n'a pas engendré Jésus. Ensuite, au verset 18, il est dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ensuite, il est dit qu'ils n'habitaient pas ensemble. Ils étaient fiancés, enfin, cette forme de fiançailles juives, mais ils n'étaient pas mariés, le mariage n'avait pas été consommé. À nouveau, verset 20, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Puis au verset 23, voici la Vierge deviendra enceinte. Et le mot Vierge devrait être entendu dans ce texte comme n'ayant comme une jeune fille, non seulement une jeune fille, mais une jeune fille qui n'a pas eu de rapport avec un homme. Enfin, au verset 25, il est dit qu'il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Et cette expression « connue » parle de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc, Joseph n'a pas eu de rapport avec Marie avant la naissance de Jésus. Donc, il est absolument clair, si on se base sur la parole, que la conception de Jésus était virginale, même si des gens qui se disent chrétiens le nient. Maintenant, pourquoi est-ce aussi important? Pourquoi Matthieu insiste-t-il autant sur cette naissance virginale? Parce qu'après tout, Dieu n'aurait pas pu prendre un enfant né d'un couple humain et puis en faire son fils et l'adopter. C'est donc ce qu'on appelle la thèse adoptionniste, qui est soutenue par certains, qui veulent nier la naissance virginale. Il y a plusieurs raisons directement avancées par l'Écriture, ou qui sont logiquement déduites de l'Écriture, qui expliquent la nécessité de la naissance virginale, de cette conception par le Saint-Esprit. Tout d'abord, je ne sais pas si on l'a lu tout à l'heure, on l'a lu effectivement oui, dans l'annonce faite à Marie, en Luc 1, 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc en fait, Jésus est le fils de Dieu, d'après ce passage, parce qu'il est conçu par Dieu, le Saint-Esprit. Donc il y a une filiation génétique, si je puis dire, où il est conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, l'enfant Jésus, on peut se dire aussi, mais est-ce qu'il n'est pas déjà fils de Dieu au moment où il est né de Marie? En fait, il est fils de Dieu de toute éternité, on reviendra là-dessus plus en détail. Mais la naissance par Marie, c'est la méthode qui a été retenue par Dieu pour que son fils éternel, celui qui a toujours été dans l'éternité, son fils, devienne un homme pour qu'il soit fait chair. Donc c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dans Galates, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Galates, chapitre 4, on a le lien direct, il y a un lien direct qui est fait entre cette naissance par Marie et la venue dans le monde du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu au sens de la deuxième personne de la Trinité. C'est pas seulement qu'il est Fils de Dieu parce qu'il est né, il a été conçu par le Saint-Esprit en tant qu'homme, mais on voit dans ce passage en Galates 4, verset 4, qu'il est que Dieu, hein, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc Dieu envoie son Fils éternel. S'il envoie son Fils, c'est que son Fils était déjà là, avant la naissance, il envoie son Fils éternel parmi les hommes, et il le fait au moyen de la naissance virginale. Donc la façon de laquelle le Fils éternel qui a toujours existé, la deuxième personne de la Trinité, devient homme, c'est par cette naissance virginale. Donc la conception par le Saint-Esprit, elle confirme de façon physique, elle illustre ce statut éternel de Fils de Dieu. Et le statut divin du nouveau-né est aussi clairement proclamé dans ce passage, puisqu'on voit au verset 23 qu'il est dit qu'on lui donne le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Tout de suite, dans le même passage, on voit que la divinité de Jésus est proclamée, dans le passage de Matthieu. Et si certains doutent, en fait, de cette préexistence éternelle du Fils de Dieu avant son incarnation, on en a une preuve manifeste dans l'évangile de Jean. On peut prendre l'évangile de Jean qu'on a cité tout à l'heure, Jean chapitre 1. Donc dans Jean chapitre 1, on a le lien qui est fait entre là. Jean chapitre 1 nous parle de la parole. Donc la parole qui est le nom dans ce chapitre qui est donné à la deuxième personne de la Trinité. Donc Jean chapitre 1, on voit effectivement au premier verset qu'il est dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, cette entité qui est appelée la parole, est Dieu, n'est-ce pas? Et on voit un peu plus loin, au verset 14, que la parole a été faite chair. Donc, on a donc la parole qui est la deuxième personne de la Trinité, et cette parole a été faite chair. Donc, cette parole, elle était au commencement, ça veut dire qu'elle était de toute éternité, mais elle s'est faite chair, donc elle est devenue. Elle est devenue un homme, en fait. Et cette incarnation, elle est décrite dans le passage que nous sommes en train d'étudier. Donc la conception par le Saint-Esprit, c'est le moyen qui est choisi par Dieu pour que son Fils éternel devienne un homme. Et ça confirme, et ça illustre, hein, cette naissance physique, cette paternité physique, elle confirme et elle illustre son engendrement éternel par le Père. Le fait qu'il ait toujours été, de toute éternité, le Fils. Donc c'est une première raison qui rend nécessaire cette naissance virginale, cette conception par le Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a un deuxième point Tout de suite, le statut divin de l'enfant Jésus, qu'on a vu dans ce passage, par le fait qu'il s'appelle Emmanuel et par le fait qu'il est le Fils éternel, ça pose tout de suite un problème s'il devient un homme en ce qui concerne la relation de Jésus en tant qu'homme avec le péché. Avec le péché originel en particulier, parce que si Jésus est Dieu, il ne peut absolument pas être pécheur. Et comment peut-il être un homme puisque tous les hommes sont pécheurs? Alors, et comment on sait que tous les hommes sont pécheurs? C'est ce qu'on appelle le péché originel. Romains 5, verset 12, nous enseigne que tous les descendants d'Adam sont marqués par le péché originel dès le sein maternel. C'est pourquoi, comme par un seul homme, dit ce verset, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc tous les hommes, tous les descendants d'Adam, et nous sommes tous des descendants d'Adam, sont pécheurs. C'est le péché originel. Alors qu'en est-il de Jésus? Je propose d'écouter ce que dit Jean Calvin là-dessus dans le catéchisme de Genève. Il pose cette question. Question, pourquoi donc a-t-il fallu l'intervention du Saint-Esprit dans la naissance de Jésus? Ne pouvait-il être normalement conçu comme l'est tout être humain? Réponse. La nature humaine est totalement corrompue. Il fallait donc, lors de la conception du Christ, une intervention de l'Esprit-Saint, afin que notre Seigneur fût préservé de cette contagion et qu'il restât absolument pur. Ainsi, celui qui sanctifie les hommes est lui-même sans tache, voué à la pureté dès le sein de sa mère, afin d'être entièrement consacré à Dieu et préservé de la corruption du genre humain. Donc, effectivement, donc, ce péché originel, c'est ce que Calvin appelle la corruption du genre humain. Alors certains pourraient penser que le péché s'hérite par les pères. Il y a des gens qui disent ça, et que ce serait pour ça que Jésus est né d'une femme, mais n'en déplaise à nos sœurs, l'expérience, en tout cas la mienne, et peut-être celle d'Albert ou d'autres, montre que certains traits de caractère pécheur peuvent aussi s'hériter de la maman. Donc en fait, le fait que Jésus soit né humainement d'une femme ne le préserve pas du péché. Le péché originel se transmet aussi bien par les femmes que par les hommes. Dans l'hypothèse donc, que fait ici Jean Calvin, c'est que l'Esprit-Saint, par son intervention, préserve Jésus de la contagion du péché originel. Et la conception par l'Esprit-Saint préserverait la transmission, finalement, du péché originel. Donc c'est une hypothèse qui fait, mais qui est retenue très largement dans l'Église. Dans un même ordre d'idées, de façon plus simple, je citerai un théologien qu'on a étudié ensemble avec le frère Michael, donc Donald MacLeod, il y a quelques années, dans son livre « La personne de Christ », où il dit tout simplement ceci, « L'humanité du Christ a été créée par le Saint-Esprit, et en tant que telle, elle participe du caractère essentiel de tout ce que Dieu crée, elle était très bonne. » Donc en fait, la création de Jésus par le Saint-Esprit, dans le ventre de Marie, fait qu'il est, comme il est créé par Dieu, il est sans péché. Donc la naissance, cette conception virginale, c'est pas trop le fait qu'elle soit virginale, c'est surtout qu'elle soit faite par le Saint-Esprit. La conception par le Saint-Esprit, elle est nécessaire pour que le Fils de Dieu, tout en étant homme, soit exempt du péché originel. On ne comprend pas exactement comment, mais manifestement, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là que Jésus est sans péché. Il y a un troisième argument, j'en citerai que trois, il y en a d'autres, mais il y a un troisième argument qui appuie la nécessité de cette conception miraculeuse par le Saint-Esprit, Albert l'a évoqué, c'est justement son caractère miraculeux. En versets 23 et 24, on lit ceci, 22 et 23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc ces versets font référence en fait à un passage d'Ésaïe chapitre 7. Dans ce passage, donc, le prophète Ésaïe est envoyé auprès du mauvais roi de Juda, un mauvais roi qui s'appelait Achaz. Achaz, c'est le père d'Ézéchias. Il était en proie aux difficultés et à la menace militaire à la fois de la Syrie et du royaume du Nord. Mais malgré la méchanceté d'Achaz, et probablement parce qu'il était un descendant de David, Ésaïe prononce envers Achaz un message rassurant de protection de la part de Dieu. Et Dieu même propose à Achaz de lui demander un signe. Mais Achaz refuse. Mais Dieu lui annonce quand même ce signe, en Ésaïe 7, verset 14, et lui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc c'est cette prophétie, donc, qui date d'environ 700 ans avant Jésus-Christ, qui est réalisée et qui est citée dans Matthieu 1, par la naissance de Jésus. Donc le mot signe, c'est un mot qui est utilisé pour miracle. Il y a d'autres mots comme prodige, par exemple, mais le mot signe, c'est un mot qui est utilisé pour miracle. Et ce mot, il marque le fait que Dieu fait des miracles pour montrer quelque chose. Un signe, c'est ça montre quelque chose. Les miracles, c'est un signe pour attirer l'attention des hommes. Et le miracle de la conception virginale par le Saint-Esprit montre que l'enfant Jésus n'est pas n'importe quel enfant. Il n'entre pas dans le monde comme n'importe qui. D'ailleurs, il ne sortira pas du monde comme n'importe qui non plus, puisqu'il va ressusciter. Mais donc, il n'entre pas dans le monde comme n'importe quel enfant. Et il entre d'une façon surnaturelle qui convient à sa nature divine. Et on l'a vu à l'instant. Il y a d'autres signes qui entourent sa naissance. L'annonce des anges à Marie, à Joseph, à Zacharie. L'annonce des anges au berger, l'étoile, l'adoration des mages, etc. Donc il y a tout un ensemble de choses, des signes qui entourent la naissance de Jésus pour marquer que c'est un être exceptionnel. Et la conception virginale est un signe également qui marque cela. C'est donc un être hors du commun. Maintenant, ce passage m'a amené à réfléchir, je pense nous amène à réfléchir finalement sur la nature de celui qui est le résultat de cette conception virginale par le Saint-Esprit. On a vu qu'il est divin, c'est Emmanuel, c'est le Fils éternel de Dieu, mais il est aussi né comme un bébé humain normal. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est un homme ? Est-ce qu'il est Dieu ? Est-ce qu'il est à moitié homme, à moitié Dieu ? Est-ce qu'il est plus qu'un homme ? Est-ce qu'il est plus Dieu qu'homme ? Ou est-ce qu'il est plus homme que Dieu ? Donc ces questions nous paraissent peut-être superflues, mais si on parle avec un témoin de Jéhovah, un musulman, c'est très vite des sujets qui vont nous, entre guillemets, nous envoyer à la figure. Donc on a intérêt à un petit peu à exercer notre réflexion sur ces choses si on veut défendre finalement la personne de Christ, et c'est bien ce que nous voulons faire, et la première chose que nous voulons faire lorsque nous parlons avec des incroyants. Et les questions sur la personne de Christ ont fait l'objet de grands débats théologiques dans les premiers siècles de notre ère jusqu'au 5e siècle. Il est intéressant de constater que ce qui a poussé les chrétiens à creuser tel ou tel aspect de la théologie, c'est l'apparition d'hérésie. Manifestement, le christianisme du début, quand on regarde les débuts du christianisme après l'ère apostolique, c'était un christianisme qui était simple et qui était plein de ferveur d'ailleurs, mais qui ne se posait pas des questions très compliquées. Mais les gens commençaient à se poser des questions compliquées quand il y a des hérésies qui sont apparues, qui ont commencé à nier ou à remettre en question des choses qui étaient la vérité. D'ailleurs, le phénomène a continué jusqu'à la Réforme, puisque à la Réforme, c'est poussé par l'apparition d'hérésies au sein de l'Église catholique que les réformateurs ont été obligés de se poser des questions, notamment sur la justification par la foi devant les indulgences. Ils ont été obligés de réagir par rapport à des hérésies qui vraiment devenaient dominantes dans l'Église catholique. Mais dans les premiers siècles, ce qui préoccupait donc les chrétiens, ce n'était pas la doctrine du salut, comme du temps de la Réforme, mais c'était la doctrine de Dieu et la doctrine de Christ. Qui est Dieu et qui est Christ ? Et c'est là-dessus que les attaques les faux enseignements se manifestaient. Par exemple, au IVe siècle, donc dans les années 300, est apparue une hérésie qui a failli emporter complètement le christianisme. Elle a failli totalement dominer dans le christianisme, elle a plus ou moins dominé pendant un certain nombre d'années d'ailleurs. C'était ce qu'on appelle l'arianisme, du nom de son promoteur qui s'appelait Arius. Et Arius prétendait que la deuxième personne de la Trinité, pas Jésus, mais même la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire de toute éternité, était en fait une créature et non pas le créateur. Une créature de rang très supérieur, une créature unique, mais une créature tout de même. Et c'est d'ailleurs ce que croient aujourd'hui les témoins de Jéhovah. C'est vraiment leur croyance. Et sa doctrine, elle a été dénoncée par le Concile de Nicée, et qu'il a défini clairement. Il y a ce qu'on appelle le symbole de Nicée, et nous sommes parfaitement à l'aise. Il est récité dans les églises catholiques, mais on est parfaitement à l'aise pour le réciter aussi. On croit tout ce qui est écrit dedans. On l'appelle Nicée-Constantinople, parce qu'il a été complété à Constantinople. Et donc, en substance, ce symbole dit que Dieu a une seule nature. On dit aussi donc une seule essence ou un seul être. Donc il y a un seul Dieu. Mais il existe en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Ces trois personnes sont distinctes les unes des autres, et chacune est pleinement Dieu. C'est très compliqué à comprendre. C'est sûr, quand on débat avec les témoins de Jéhovah, ou les musulmans, ils vont tout de suite nous attaquer sur le fait que c'est dur à comprendre, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas compréhensible que ça n'est pas vrai. En revanche, on peut l'exprimer avec clarté, comme je pense l'avoir fait, en tout cas comme c'est fait dans le symbole de Nicée. Et un siècle plus tard, c'est plus tant la question de la doctrine de Dieu qui est posée, mais la question de la doctrine de Christ. Qui est donc ce Jésus-Christ qui est résultat de l'incarnation? Alors, il y a eu tout un ensemble d'hérésies, j'ai eu beaucoup d'intérêt. On a étudié aussi ça donc, dans ce livre de Donald MacLeod, La personne de Christ, il y a quelques années, un livre passionnant. Il y a eu en fait plusieurs hérésies comme ça qui sont apparues, qui commençaient à poser des questions finalement sur la personne de Christ. Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'aurais peur de dire des bêtises, c'est assez compliqué. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que ces hérésies ont conduit à la réponse la plus précise qui était donnée jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, sur la personne de Christ. Et cette réponse a été donnée dans un autre concile, qui était le concile de Chalcédoine. Donc c'est des noms un peu compliqués, mais c'est des noms de... Ça devait être dans la Turquie actuelle. Donc le concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ. Et ça a été adopté par l'Église donc catholique romaine et aussi par l'Église protestante. Et d'ailleurs, je voudrais dire au passage que ces conciles ne font pas autorité parce qu'en tant que concile, ça c'est ce que croient les catholiques, c'est pas ce qu'on croit nous, ils font pas autorité parce que c'était des conciles. Ils font autorité quand ils proclament une vérité qui est conforme à la parole. Hein? Et c'est ce que nous croyons, c'est ce que croient les protestants évangéliques, en ce qui concerne les conciles, en gros jusqu'au concile de Nicée et au concile de Chalcédoine. Au-delà de ça, généralement, les protestants, me semble-t-il, en tout cas, ne retiennent pas les conciles qui se sont réunis. Hein? Mais donc ces conciles, ce sont des chrétiens qui se réunissent et puis qui formulent avec clarté, après avoir beaucoup réfléchi à la question, basé sur la Bible, une réponse donc à cette question qui est parfois très compliquée, comme celle en tout cas qui nous préoccupe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lise en fait quelques... Il n'est pas très long en fait le compte-rendu du concile de Chalcédoine. On va le lire un petit peu rapidement, puis le regarder, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais donc, on va lire quelques phrases, je vais lire en deux parties. Et donc écoutez bien, puis ensuite je commenterai. Donc il commence comme ça, il dit « Nous confessons... » Il y a une introduction, puis ensuite il dit ça. « Nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et le même vraiment homme. » On vous rappelle la question, est-ce qu'il est plus Dieu qu'homme? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est homme? À moitié Dieu, à moitié homme. Voilà ce qu'il dit. Donc, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père, ça veut dire de même nature que le Père, selon la divinité, et le même consubstantiel à nous, donc c'est-à-dire de même nature que nous, selon l'humanité, en tout semblable à nous, sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que Christ a deux natures. Il a une nature humaine et une nature divine. Nous n'avons qu'une nature. Hein? Donc c'est évidemment un être à part. Il a deux natures. Une nature humaine, une nature divine. Il est vraiment homme et il est vraiment Dieu. En tant que Dieu... Donc, quelle est cette nature divine? C'est la même nature que le Père. Donc, il est comme Dieu. Il a la même nature que le Père. Et en tant qu'homme, il est de la même nature que nous, sauf le péché. Donc, il est exactement comme nous dans sa nature humaine. En tant que Dieu, il a été, donc dit le texte, engendré du Père avant les siècles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, génération éternelle. Il est le Fils éternel de Dieu. Il a toujours existé. C'est difficile pour nous de comprendre un engendrement éternel. Il a toujours existé, il a toujours été le Fils de Dieu dans l'éternité. En tant qu'homme, il a été engendré de la Vierge Marie. Au dernier jour, dit le texte, ça veut dire il y a 2000 ans. Donc il est né de la Vierge Marie. Et donc il n'est pas plus Dieu qu'homme, et pas plus homme que Dieu. Il est vraiment Dieu et vraiment homme. Maintenant, s'il a deux natures, est-il deux personnes ? Et ça, c'était une des hérésies qui était, vous avez peut-être entendu ce nom d'ailleurs, d'un homme qui s'appelait Nestorius, On appelait ça le nestorianisme. C'est intéressant de savoir que le nestorianisme a manifestement influencé l'islam. Et dans cette hérésie, il disait bien oui, effectivement, il est vraiment Dieu, il est vraiment homme, mais c'est deux personnes différentes. Ce n'est pas une seule personne. Il y a deux personnes. Et voilà, le texte continue pour répondre à cette question sur est-ce qu'il est une ou deux personnes. Et il dit ceci, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, donc une seule personne, reconnu de nature, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique, engendré, Dieu, Verbe, Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu plus compliqué ce passage-là, mais finalement, qu'est-ce qu'il dit ? En résumé, il dit qu'il est une seule personne, Jésus-Christ, qui a deux natures. Donc pas deux personnes, une seule personne. Quand on parle à Jésus, on parle à une seule personne. Ces deux natures sont unies en unies, donc il nous dit, il utilise le mot unies, elles sont unies, ces deux natures, en une seule personne. Mais elles ne sont pas mélangées. Elles ne sont pas mélangées. Ça veut dire que les attributs, par exemple, humains, ne se donnent pas au divin. Quand Christ est fatigué, c'est en tant qu'homme qu'il est fatigué. Quand il a faim, parce que Dieu n'est pas fatigué. On sait qu'il ne veille ni ne dort. Quand Christ a faim, c'est selon sa nature humaine qu'il a faim. Ce n'est pas selon sa nature divine. Dieu n'a pas faim. Et quand il est mort sur la croix, c'est selon sa nature humaine qu'il est mort sur la croix. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Mais attention, si ces natures sont distinctes et ne se mélangent pas, elles ne sont pas pour autant séparées. Hein ? C'est important aussi, on ne doit pas confondre distinction et séparation. Par exemple, nous sommes constitués d'une âme et d'un corps. Notre âme et notre corps sont distincts. Mais si on sépare notre âme et notre corps, nous sommes morts. Donc, les deux natures de Jésus ne sont pas séparées. Elles sont distinctes, elles ne sont pas mélangées, mais elles ne sont pas séparées. Et ce qui est important, c'est que toutes les expériences qui sont vécues par Jésus-Christ, elles ont été vécues par une seule personne. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Quand il a faim, c'est une seule personne qui a faim, vrai homme et vrai Dieu. Quand il meurt, c'est une seule personne qui meurt, vrai homme et vrai Dieu. De même quand il ressuscite. Et de même, quand il monte au ciel et qu'il s'assied à la droite du Père, il est vrai homme, il est toujours vrai homme et vrai Dieu. Ces deux natures sont pour toujours inséparables et indivisibles. Et aujourd'hui encore, il est vraiment homme et vraiment Dieu. Il n'était pas avant l'incarnation, c'est venu lors de l'incarnation. Avant, il était seulement Dieu, maintenant, depuis l'incarnation, il est vraiment homme et vraiment Dieu. Mais il est bien une seule personne. C'est des sujets qui sont complexes. Je pense qu'on est très certainement aux limites, aux frontières de ce qu'on peut comprendre, peut-être même au-delà. Alors, il y a eu des débats entre théologiens, ce qui me dépasse largement, je pense qu'il est dépassé peut-être même un peu aussi, sur la communicabilité entre les deux natures. Et je ne serais pas capable d'en rendre un compte-rendu fidèle et fiable. Mais je pense qu'on doit retenir ceci qui est important, c'est que la personne de Christ à laquelle nous rendons un culte, il est le seul vrai Dieu, il est un homme, il a toutes les perfections divines et il a toute l'expérience humaine sauf le péché. Et sur le plan pratique, ça a pour nous des conséquences précieuses, et en particulier celle-ci, je cite des versets d'Hébreux. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ça, c'est parce qu'il a été homme. Dieu n'est pas tenté. Et un autre passage qui est cousin avec celui-là, toujours dans Hébreux 4, 15 et 16. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le christianisme est la seule religion où nous pouvons nous adresser à un Dieu qui nous comprend parfaitement parce qu'il a l'expérience de notre vie. Le Dieu de l'islam, il est grand, il est puissant, il est glorieux, mais il est loin. Mais notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il a cette humanité. C'est extraordinaire. Je pense qu'on là, on doit plutôt maintenant adorer, comme disait tout à l'heure Albert, plutôt que comprendre. Une dernière chose donc, qu'on veut regarder qui est dans ce passage, c'est pourquoi Dieu... Donc on a vu pourquoi il y avait une naissance virginale, une conception virginale. Maintenant, pourquoi Dieu, finalement, a-t-il envoyé son Fils dans le monde, dans cette humanité, puisqu'il était de toute éternité, il aurait pu rester Fils éternel. Pourquoi finalement a-t-il été envoyé dans le monde? Et la réponse générale à cette question, elle est donnée au verset 21 de notre texte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est le même nom que Josué. La racine G ou Jo correspond à Yahvé. Et donc, donc il y avait Dieu. Et donc, ce mot veut dire Dieu sauve. Le mot Jésus veut dire Dieu sauve. C'était un nom qui était répandu à cette époque. Mais un seul homme a porté ce nom en étant vraiment le Dieu qui sauve. Et c'était Jésus. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Romains 8. On va voir une réponse plus complète à la question de pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde, dans cette humanité, avec ce corps finalement. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On ne va pas analyser en détail ce verset, mais je ferai seulement quelques remarques. Le verset 3 explique que pour condamner le péché dans la chair, c'est-à-dire pour payer le prix de notre dette de péché, Dieu a jugé nécessaire d'envoyer son Fils dans une chair semblable à la nôtre, c'est-à-dire dans un corps. Et donc ça parle de l'incarnation. Et on voit donc ici que du point de vue de Dieu, l'incarnation est indispensable pour l'expiation. Il fallait qu'il condamne le péché dans une chair semblable à la nôtre. Ça, c'est l'expiation. Donc il fallait l'incarnation pour l'expiation. Et c'est en ça que Jésus sauve son peuple de ses péchés. Et le verset 4, il insiste sur le but rédempteur de l'incarnation, parce qu'il dit... Il dit que ça a été fait, donc, et de la mort de Christ, il dit que ça a été fait afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc ça, c'est manifestement la rédemption. Donc Christ a pris un corps pour sauver son peuple de ses péchés. De quel peuple s'agit-il? Dans le contexte juif du récit de l'Évangile, on pourrait penser qu'il s'agit du peuple juif, et c'est sans doute ce que Joseph a compris. Il a dû comprendre ça. Mais nous savons que tout le peuple juif ne s'est pas converti, loin de là, et qu'en revanche, de nombreux païens sont convertis, nous en sommes la preuve. Et c'est ce peuple que Dieu a connu d'avance, un peuple constitué d'hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation, que Jésus est venu sauver par la mort humaine qu'il a subie. C'est ce peuple que Jésus est venu sauver de ses péchés. Le sang a coulé de ce corps humain dans lequel Jésus était incarné et justifié par ce sang. Nous sommes sauvés par lui de la colère. Tout à l'heure, Albert a parlé de la colère. Donc, justifiés par son sang, nous sommes sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9. Il a, si on parle toujours de ce corps dans lequel il s'est incarné, il a porté nos péchés dans ce corps humain, sur le bois, nous dit 1 Pierre 2, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Ainsi, Jésus nous sauve de la conséquence du péché, nous sauve de la colère de Dieu, mais il nous sauve aussi de la puissance du péché. On a parlé de Zacharie. Zacharie qui dit que le but de ce salut, c'est que nous marchions devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et pour terminer, effectivement, je reprends également ce que dit Paul. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà le but de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité, en Jésus-Christ, c'est qu'il sauve son peuple de ses péchés. Prions.